Pouvez-vous revenir sur la distinction que fait saint Thomas entre le « in » et le « ab » ? Le « in » est-il l'enracinement dans le relatif de la relation ? Par exemple, la puissance de voir. Le « ab » est-il l'enracinement dans le corrélatif ? C'est un déracinement. Exactement la greffe, si vous voulez. Enracinée. La greffe est toute tournée vers les fruits nouveaux. Et elle est enracinée. Elle pompe la sève de l'arbre. Eh bien, c'est un peu comme ça, la relation. La relation pompe l'être dans le fondement. Et puis, tournée vers l'aspect extatique. Le relatif, c'est l'aspect esthétique de l'être. Et c'est très important parce que ça fait comprendre comment l'amour qui est extatique se fonde dans l'être. Mais autrement, on ferait, et c'est tentation, c'est la tentation du père de finance. Le bon père de finance, quand il dit un surêtre, parce que de fait, l'action pour lui, l'aspect de l'amour extatique, ne s'explique plus par l'être. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Parce que c'est l'être qui donne l'intelligibilité à tout. C'est parce que l'amour est qu'il est intelligible. L'intelligibilité fondamentale, c'est l'être. Tout ce qui est intelligible. Et n'est intelligible qu'en fonction de ce qu'il est. L'intelligibilité ne provient pas de l'amour, ne provient pas du bien, mais de l'être. Donc, il faut montrer ce fondement ontologique de l'extase. C'est l'âme. Et le « in », c'est parce que c'est celui qui aime, qui est en extase. L'amour n'existe qu'en fonction de celui qui aime. Alors, l'enracinement, c'est très curieux, la relation. Je crois que c'est très dépaysant, n'est-ce pas ? Quand on s'est plongé dans la substance le plus qu'on peut. Là, vous voyez la différence ? C'est que la substance, vous ne la saisissez que par induction. Le relatif a cet immense avantage que vous saisissez par l'expérience. Et c'est ça qui est très curieux. Si vous mettiez une philosophie de la relation avant, c'est une philosophie d'expérience. Alors je comprends qu'on saute dessus. Plus besoin d'induction. Une philosophie du relatif, où la relation remplace sa substance, ça y est, on y est, tout de suite. Alors on vote tout de suite pour la relation. Ah bah la substance, c'est le vieux régime. Le A, de moins, c'est révolutionnaire. Et c'est vrai, c'est comme ça. Parce que la substance, c'est l'enracinement, c'est le patrimoine, c'est la déesse qui demeure. Alors le had, Platon n'a rien dit, il n'a pas dit que c'était la déesse révolutionnaire. Le bon esprit vient. C'est l'aspect extatique de l'être, l'éclatement de l'être. Dans toute révolution, il y a un éclatement. C'est pour ça que toute révolution a quelque chose de juste au point de départ. Parce qu'il y a un appel à l'éclatement, étant donné que on s'est trop enraciné. Vous on s'est trop embourgeoisé. On sait très bien ce que c'est que l'embourgeoisement, c'est ça. Alors, le had, le grand vent, au moins qu'on respire. De l'autre côté, on étouffe. Il y a ça qu'il faut comprendre, voyez. Il faut le dépasser, c'est évident. Mais c'est tout l'aspect de l'expérience qu'on sent très bien, ça. Et tout ça, c'est présent. Et alors, la connaissance de la relation, c'est quelque chose d'immédiat. C'est l'avantage de la relation. Le fondement dans l'être de la relation n'est-il pas à chercher du côté de l'être en puissance ? On verra. uniquement. Ça dépend quel genre de relation. Pour la relation transcendantale, ce qu'on va voir avec Jean de Saint-Thomas. Parce que je crois que c'est quand même important de voir ça. Donc, voyez, le in, c'est tout à fait l'enracinement. La relation est telle qu'elle ne peut pas s'enraciner par elle-même. C'est pour cela qu'il peut y avoir une relation de raison. Vous voyez comme c'est important, parce que c'est quand même toujours très important pour nous de voir où se fait le déraillement entre une philosophie réaliste et une philosophie idéaliste. Étant donné quand même, on ne peut pas nier, notre philosophie européenne a les deux. Alors si je suis dans une perspective du progrès, l'idole moderne, n'est-ce pas ? Je suis dans la perspective du progrès. C'est évident qu'il y a un progrès. On a l'électricité. C'est un progrès, tout simplement. Plutôt que d'avoir la bougie, un progrès énorme, on a l'automobile, on a l'avion. C'est un progrès fou, comme conquête de l'espace, comme dépassement du conditionnement humain. C'est énorme. On serait réduit à revenir à l'âge, au Moyen-Âge. Je ne sais pas combien parmi nous pourrait vivre. On ferait un couvent moyenâgeux. En reprenant tout. Petite citadelle. Mariale. Et du Moyen-Âge, oui, parce qu'il y a la déesse qui demeure. Donc c'est Mariale. C'est quelque chose de formidable. Il y aurait très peu parmi nous qui pourraient le vivre. Je crois qu'on ne pourrait entrer qu'à 40 ans. Avant, on dirait, allez, labourez la terre. Faites le hippie pendant 15 ans, et puis après, vous serez très fatigué. Vous reviendrez. Parce que il y a quelque chose de la modernité qui est en nous, et qui fait qu'on a besoin d'expansion. La modernité a commencé quand l'Europe a éclaté vers l'Amérique. Il faut quand même voir ça historiquement. D'un point de vue temporaire, c'est comme ça. Ça a éclaté en théologie avec le 15, 14e et 15e siècle, le 16e siècle. C'est l'éclatement. Mais pendant 1000 ans, la chrétienté est restée dans la substance. Ça, c'est sûr. Le monde entier, c'est correspond à ça. On a eu de la peine à sortir. Alors, c'est très important de comprendre comment le had et le in, et l'enracinement dans la substance, il y a un métaxu. Puisque le had, c'est tourné vers, et le in, c'est dans la substance. Et ceci, au niveau de l'être, le had, c'est forcément, je dis bien, c'est l'idéalisme, d'une certaine manière, parce que c'est une respiration qui nous fait sortir et qui donne ce foulecan, ce dépassement, toutes les frontières, sans frontières, tandis qu'au contraire, le in. Alors c'est vraiment autour du had. Pourquoi ? Parce que le had peut être un had de raison. Et quand on dit que c'est un had de raison, c'est donc l'intelligence qui donnera la signification à ce had. Et le réalisme, c'est l'had qui s'enracine dans la substance. Et c'est le in qui fondera cet had. Et donc il y aura une signification réaliste. Le had peut donc, comprenez bien comment, assumer les deux, l'aspect idéaliste et l'aspect réaliste. Il y a quelque chose de commun. lui aussi, fait d'une certaine manière le lien entre une philosophie idéaliste et une philosophie réaliste. Pourquoi ? Parce que la signification parfaite du temps, c'est l'intelligence qui lui donne. Sans intelligence humaine, il n'y a pas de temps au sens propre. Il n'y a qu'un temps matériel. Il y a le fondement du temps. C'est l'intelligence qui donne au temps la signification. Donc, je suis idéaliste. Et c'est pour ça que c'est très important de voir ces deux catégories. Le A de la relation et le temps. Parce que tous les deux sont les frontières. Le temps au niveau du devenir. Et le A au niveau de l'être. Et vous savez, là, les frontières entre une position subjectiviste, idéaliste et une position objective, réaliste. Ce sont les deux frontières. Alors c'est intéressant parce que c'est toujours dans les gares de triage, les déviations, les tournants dans lesquels il y a toutes les directions qu'on peut comprendre comment l'intelligence peut si facilement dévier. Et c'est vrai, l'intelligence peut si facilement dévier. On peut commencer avec le réalisme. Et à 45 ans, l'âge politique, on devient idéaliste. Parce que c'est si fatigant d'être réaliste. Et c'est si reposant d'être idéaliste. Au moins, on est au-dessus. Tandis que le réaliste, il est obligé de tenir compte de toutes les circonstances dans lesquelles il est. C'est très fatigant. Il faut beaucoup de force pour rester réaliste toute sa vie. Alors qu'il faut beaucoup d'imagination pour devenir idéaliste. C'est très très différent. Et ça, c'est net. C'est l'histoire qui nous montre. Alors, je vous dis ici un petit mot sur Jean de Saint-Thomas. D'abord, c'est intéressant. Vous voyez, alors, ceux qui auront beaucoup de courage pour regarder ce qui est avant, c'est-à-dire entre saint Thomas et Jean de saint Thomas. Jean de saint Thomas, la grande scolastique, ça reste de la grande scolastique, c'est de la scolastique, mais c'est de la grande scolastique. Et après, c'est le déclin. Jusque Jean de saint Thomas, on peut regarder là, comment, à l'intérieur de l'ordre de Saint-Dominique, il y a eu ce patrimoine de saint Thomas qui a été développé. Après, c'est très vite un déclin. Jean de saint Thomas, je vous l'ai déjà dit. Donc, franc-comtois. Il n'y a pas de stèle à Jean de saint Thomas. Franc-comté, c'est dommage. Et ça appartenait à l'Espagne. Donc, c'était Espagne. L'Europe espagnole. Au temps de Descartes. Et Jean de Saint-Thomas a enseigné à Salamanque. Et je crois que c'est le plus grand thomiste. Je sais très bien qu'il y a deux tendances. Il y a les petits et les grands, mais bon, évidemment. Et on se renvoie la balle. Il y a Cachetan et Jean de Saint-Thomas. Cachetan est beaucoup plus logicien. Et Jean de Saint-Thomas est beaucoup plus métaphysicien, avec un sens mystique, spirituel, beaucoup plus développé. Tandis que Cachetan, c'est la logique. Cachetan, c'est bon de faire du cachetan, parce que ça vous fait les dents. Ça, c'est sûr, c'est le scapel de Cachetan. Évidemment, tout ça n'est pas traduit dans le latin. Jean de Saint-Thomas a un latin très particulier, près de l'Espagne, et l'autre l'Italie. Alors c'est intéressant de voir ça. Cachetan cardinal, Jean de Saint-Thomas moine. Pour Jean de Saint-Thomas, la doctrine, je prends ça simplement, je ne veux pas aller très loin parce qu'on ne va pas tout regarder. La doctrine de Saint-Thomas est parfaitement claire. Ces relations ont l'action et la passion pour fondement propre, et non pas seulement comme condition. question, il s'est posé une question scolastique, de savoir dans quelle mesure la relation peut-elle fonder une relation. Dont Scott le prétend, Jean de Saint-Thomas, s'appuyant sur Saint-Thomas, prétend l'inverse, car il s'en suivrait dans les relations un processus à l'infini, ce qui est impossible, puisque les fondements sont cause des relations. La question de savoir quel est l'aspect in et out. Et ça, il y aura, là, c'est, au point de vue scolastique, il y a eu des très grands développements. Parce que c'est vrai, toute la théologie sur la Trinité, au moins tout un aspect de la théologie sur la Trinité, parce que la théologie sur la Trinité repose d'abord sur les processions. Là, il n'y a pas de querelle. Pas étonnant, parce que c'est l'écriture. Je procède du Père. Je sors du Père. Ego progressi. Donc là, il n'y a pas de querelle. C'est étudier ce que c'est que la procession. Où la querelle commence, c'est où la scolastique commence à avoir des dents. C'est la relation. Parce que ça, c'est pas dit dans l'écriture. D'abord, on parle du Père et du Fils, donc ils sont relatifs. Mais on ne parle pas de la relation comme telle. Alors, et le théologien introduit la relation pour donner une sorte d'explication du mystère de la distinction dans l'unité. Comment la distinction s'introduit dans l'unité? C'est pas la procession qui va l'expliquer, c'est la relation. Et la relation, en comprenant le in et le out. Donc, toutes les querelles scolastiques vont être là-dessus. Et alors, Don Scott, c'est l'intérêt de Don Scott, a quelque chose de très particulier. Don Scott est un théologien très spécial, très subtil. Très subtil, Don Scott. C'est pas commode, Don Scott. Et là, Don Scott, ce problème-là, parce que c'est un des problèmes frontières. Les relations peuvent-elles fonder d'autres relations prédicamentales? Là, vous avez tout de suite les relations transcendantales et la relation prédicamentale. Oui, c'est intéressant. Là, on est en pleine scolastique. Relation. Et il faut au moins savoir ça. Transcendantale. C'est du reste intéressant parce que vous voyez, déjà le mot transcendantal glisse. Les transcendantaux, c'est par rapport à l'être. Ici, vous employez transcendantal par rapport à la relation. Et vous aurez le troisième moment du transcendantal avec Kant. Donc celui qui ferait l'étude au transcendantal, verrez comment le transcendantal pour saint Thomas, c'est au niveau des rationes transcendantales. Les transcendantaux, c'est les premiers modes de l'être. Et les transcendantaux sont saisis dans une perspective critique, pas métaphysique. Suarez transporte les transcendantaux en métaphysique. Et on commence la métaphysique avec les transcendantaux. J'ai connu ça, on m'a enseigné la métaphysique comme ça. Et je crois que ça c'est très important de ne pas confondre critique et métaphysique, surtout depuis Kant. On n'a plus le droit. Avant Kant on pouvait, mais depuis Kant on ne peut plus. Kant a apporté au moins ça. C'est qu'on doit être très attentif à l'aspect critique et l'aspect métaphysique. commencer par les transcendentaux, c'est commencer par des idées. C'est commencer par les rationnels. C'est pas commencer par le jugement d'existence. Il y en a confondu les deux. Et c'est quand même quelque chose de très important de comprendre ça. Comment ? Puisque toute erreur au point de départ a d'immenses conséquences après. Dit Aristote, le Rhône et le Rhin prennent leur source tout proche. Une petite erreur au début. C'est l'erreur du Rhin, évidemment, par rapport au Rhône. Vous comprenez bien ? Tandis que les autres diront, c'est l'erreur du Rhône par rapport au Rhin. Puisque c'est deux aspects tout à fait différents. Une petite erreur au point de départ a d'immenses conséquences. Commencez-vous la métaphysique par un jugement d'existence ? Commencez-vous la métaphysique par les rationnels transcendantales ? Tout de suite, on voit la différence. Alors, je ne qualifie pas l'un de Rhône et l'autre de Rhin, ça, je vous laisse le soin de le faire. Mais on voit très bien que c'est très important de saisir ça. Comment Suarez est-il arrivé à ça ? Eh bien, je crois, je vous le disais tout à l'heure, la relation joue un intermédiaire. Et c'est Don Scott qui prend relation transcendantale, au moins un disciple de Don Scott. Donc le mot transcendantal a pénétré dans la métaphysique par la relation. Ou plus, oui, alors qu'il était d'abord critique. Parce qu'en métaphysique, le transcendant, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est transcendant en métaphysique. C'est pas nos rationnels qui sont transcendantales. Elles sont analogiques, mais pas transcendantales. Elles sont transcendantales dans le sens où elles n'ont pas de limite. Elles sont convertibles avec l'être. Mais on ne peut pas dire que c'est transcendantal au niveau métaphysique. Au niveau métaphysique, il n'y a qu'une seule réalité. Transcende tout, c'est Dieu. Les rationnelles sont transcendantales parce qu'elles sont convertibles avec l'être. Par la relation transcendantale, s'est fait le lien entre la métaphysique et la critique. Et on a transporté en métaphysique les transcendantaux. Et Kant, avec sa critique, a compris donc que c'était des raisons, des formes a priori. Parce que c'est vrai, ça ne peut être que des formes a priori. Si les transcendantaux sont en métaphysique, ça ne peut être que des formes a priori. Il a raison de dire ça, d'une certaine manière. Alors c'est très intéressant au point de vue historique de voir comment la relation a été le lieu de rencontre de l'idéalisme, du réalisme de l'idéalisme. Mais c'est à propos de cette question dont Scott donc prétend ça. Chante saint Thomas s'appuyant sur saint Thomas prétend l'inverse, car il s'en suivrait dans les relations un processus à l'infini. Du reste, cela se comprend aisément étant donné la débilité de l'être relatif. Celui-ci ne suffit pas à fonder une relation réelle. Car tout fondement est en cause, doit être antérieur, et à ce titre, il peut être dit plus parfait que ce qui est fondé. En tant que cause, il est principe. Donc, il a en lui-même sa propre stabilité. C'est la stabilité de la forme capable d'être cause. Or, le fondement, page 80. 64. De même qu'un accident ne peut être sujet d'un autre accident en le soutenant. Mais de même qu'un accident ne peut être sujet d'un autre accident en le soutenant parce qu'il ne possède pas un mode d'être plus parfait. De même, les relations étant toutes égales dans leur mode relatif d'être ne peuvent être fondement les unes des autres. Donc on voit bien que là, il y a une question très intéressante chez Don Scott. Parce que ça fait qu'on ne comprend pas. suffisamment de netteté ce qu'est le hâle par rapport au il. Certains ont prétendu que les relations du premier et du troisième type, donc du premier, c'est toujours les trois aspects des relations, les trois fondements des relations, n'étaient pas prédicamentales, mais fondaient des relations de raison, ou des relations transcendantales, ou même des dénominations extrinsèques. Jean de Saint Thomas pense qu'il faut maintenir avec Aristote, Saint Thomas et Don Scott que les trois types de fondements causent des relations prédicamentales. La relation prédicamentale étant le had, et la relation transcendantale étant le in imparfait qui est ordonné vers. Pensez toujours à la relation transcendantale, à la puissance, l'intelligence par exemple. L'intelligence est tout entière ouverte à ce qui est. Ce qui est vient déterminer l'intelligence. L'intelligence comme telle demeure ouverte à ce qui la détermine. Donc elle est en relation transcendantale. Elle ne sera parfaite que grâce à l'objet. C'est la même chose pour la volonté. Toutes les facultés sont en ordre transcendantal vis-à-vis de leur objet. Là, vous voyez comment le transcendantal unit le in et le had. Parce que le transcendantal, la relation transcendantale, implique nécessairement, quand on dit la puissance, implique une qualité. Mais une qualité qui en elle-même est imparfaite, qui en elle-même est en puissance, vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a en réalité un ordre, c'est ce qu'on devrait dire, plutôt que relation transcendantale, on devrait dire un ordre transcendantal. La puissance est totalement ordonnée à son objet. Si elle est totalement ordonnée à son objet, on dira relation transcendantale. Alors, ce qui est intéressant à voir dans la doctrine de Jean de Saint Thomas, c'est que Jean de Saint Thomas commente, comme tous les grands thomistes, commente Saint Thomas et défend la pensée de Saint Thomas vis-à-vis des interprétations qu'il juge n'être pas justes. Alors, une autre question de Jean de Saint Thomas, qui est très intéressante, c'est toujours la relation du in et de had. À quoi, formellement, se termine la relation ? Un absolu ou un relatif ? C'est savoir exactement quelle est la raison formelle de la relation du had. Il est bien certain que le terme de la relation pris dénominativé, ça c'est tout à fait la scolastique, est quelque chose d'absolu. Le père n'est pas père de la filiation, mais de la substance qu'il a engendrée. Pierre n'est pas semblable à la relation qui est dans Paul, mais à l'individu qui est Paul. La question est de savoir ce qui est formellement le terme de la relation. On va pousser jusqu'au bout le had. Jean de Saint Thomas se trouve en présence de trois positions diverses, celle de Don Scott et de Suarez, pour qui toutes les relations, mutuelles ou non, se terminent à quelque chose d'absolu. Celle de Cajetan, suivie par Bagnès, Nazarius et d'autres, les grands thomistes, pour qui toutes les relations se terminent à quelque chose de relatif. Celle de Sylvestre de Ferrare, un autre thomiste, pour qui les relations mutuelles se terminent à quelque chose de relatif, et les non-mutuelles à quelque chose d'absolu. Bon, c'est bon pour vous d'avoir un petit exemple de la scolastique. Et là, ça a son intérêt, hein. c'est pas du tout indifférent. Vous voyez, on a un peu l'impression de la dentelle. qui va pas. Et c'est vrai, c'est beau. Alors, vous voyez, lisez attentivement ce petit passage, donc page 68. Ça vaut la peine. Parce que d'habitude, vous n'êtes pas beaucoup dans la scolastique. Alors, c'est bon de faire une petite expérience. Vous voyez, le dénominativé et le formellement. Le dénominativé, c'est extrinsèque. Le formellement, c'est la fine pointe. Intrinsèque de la forme. Forme et matière dénominativées sont des distinctions logiques qui sont très importantes au point de vue logique et qui, de fait, nous permettent peut-être de préciser qu'est-ce qui spécifie la relation. Est-ce que c'est son fondement ou est-ce que c'est la relation elle-même? Et c'est très difficile à préciser. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre exactement ce qui spécifie la relation? Où la relation se termine? Est-ce qu'elle se termine au fondement de l'autre relation? Ou au terme corrélatif? Le père est relatif au fils. Le père comme relation. Mais être relatif au fils, c'est être relatif à la substance du fils. À la relation du fils. C'est ça qui est en cause. La maternité divine de Marie. Puisqu'au fond, c'est tout le mystère de la maternité divine de Marie. Est-ce qu'elle se termine à la personne ou à la relation, au fondement de la relation? Marie est source de l'humanité du Christ. Donc il semblerait que sa maternité, c'est uniquement la maternité du Christ. C'est uniquement la nature humaine. Jésus. Et pourtant, on dit Mère de Dieu. Donc ça se termine à la personne. Vous voyez, l'enjeu est ça, hein, au point de vue du théologien. C'est quand même important de comprendre une fois dans sa vie ce que c'est que la maternité divine. C'est une question de relation. Mère du Fils. D'essayer de pénétrer plus avant dans le mystère de la paternité de la filiation. Alors, c'est ça où on voit qu'au point de vue scolastique, Jean de Saint-Thomas se trouve devant trois positions. Et toutes les trois, hein, c'est ça qui est intéressant, toutes les trois veulent être thomistes. Vous avez donc, dans la relation elle-même, une triple position thomiste. Vous dites, c'est la relation qui va commander, de fait, cette diversité très grande des diverses positions dans le thomisme. Et de là, Descartes. Descartes est relié à saint Thomas par Suarez. Descartes n'est pas étranger à saint Thomas. Mais il est relié à saint Thomas par Suarez. Et Jean de Saint-Thomas, anti-Descartes, violemment, est relié à Saint-Thomas, directement. Vous voyez, ça vous fait comprendre comment Thomas d'Aquin commande toute la philosophie européenne. Et que vous ne comprenez rien à la philosophie européenne si vous ne regardez pas Thomas d'Aquin. Parce que c'est lui qui a été le maître. C'est pour ça que l'Église a raison de dire c'est le théologien commun, c'est vraiment le théologien commun, docteur commun, parce que c'est lui, et de lui un faisceau. Alors, ce serait très intéressant, vous voyez, de revenir à ce petit passage pour voir les trois grandes orientations. Descartes commande Kant, commande Hegel, commande Heidegger. Donc vous avez là toute la philosophie contemporaine est dépendante de ça. Jean de Saint-Thomas maintient un thomisme en théologie et il fait une philosophie comme Suarez. Il essaie à partir de la théologie de Saint-Thomas, d'extraire une philosophie. philosophique où ce genre de Saint-Thomas. Trois gros tomes. Mais c'est ce qu'on m'a appris quand j'ai fait la philo. Et c'est ce qu'il y avait de mieux en scolastique. Ça, Jean de Saint-Thomas, on ne perd pas son temps à lire du Jean de Saint-Thomas. On ne perd pas son temps. Parce que c'est quand même très, très beau. Mais c'est une philosophie qui est liée à la théologie, qui est extraite de la théologie. Et puis, Sylvestre de Véra, c'est aussi directement lié à Saint-Thomas, mais on dira que c'est le courant un peu secondaire avec du néoplatonisme. C'est une interprétation mineure de Saint-Thomas, je trouve, personnellement. Vous avez donc trois grands aspects. Et tout ça est autour de la relation. Plaque tournante. On comprend très bien, puisque c'est l'être d'Émile. C'est toujours à l'égard de l'être débile. Quand on dit être débile, ça veut dire un être extrêmement amenuisé. Si c'est un être extrêmement amenuisé, l'intelligibilité de cet être est très faible. Si l'intelligibilité objective de cet être est très faible, on a la tentation permanente d'ajouter, de projeter. C'est toujours à l'égard d'un malade que les interprétations sont les plus diverses. L'homme malade n'est plus totalement homme. Il est amenuisé par la maladie. D'où les interprétations diverses. Et l'homme est tombé malade à conséquence du péché originel. C'est pas étonnant que le philosophe qui regarde l'homme est un être amenuisé, un homme diminué, que vous aurez des interprétations très diverses parce que vous projetez dessus. Quand vous avez un être bien, bien déterminé, fort, mais oui, il est en acte. Et dès qu'il est en puissance, vous devez ajouter relation transcendantale. Vous interprétez. Le malade demande une interprétation. C'est pour ça que les médecins ne sont pas toujours d'accord. Ça demande une herméneutique. Ça demande parce que, de fait, il est en puissance. Tout être en puissance réclame une interprétation, relation transcendantale. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est si important de comprendre ça, parce que c'est déjà là où on découvre toutes les tendances multiples. Je veux vous montrer en dernier lieu. Il y a encore combien de minutes? 5 minutes. En dernier lieu, parce que je ne veux pas rester trop longtemps sur la topique, c'est fatigant. La relation, par la relation transcendantale, va prendre du poil de la bête. Et on va voir cette chose très très curieuse. Progressivement, la relation deviendra le centre de la pensée philosophique par l'idéalisme. Et vous avez, avec Hamelin, la relation est le premier intelligible. L'absolu et le relatif. Dans Hamelin, page 92. Ça vaut la peine. Il faut une fois dans votre vie avoir lu la philosophie d'Hamelin. Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Dans le système idéaliste d'Hamelin, Hamelin, c'est l'Hegelien français. On en parle beaucoup moins, mais il est peut-être très important de regarder Hamelin. Parce qu'on comprend dans Hamelin, comment la substance est éjectée. Le génie français veut être clair depuis Descartes. Et il abandonne la profondeur pour la clarté. Vous savez ce que dit le père Gardeil au début de la structure de l'art? assez joli. Parce qu'alors on voit le génie allemand et le génie français. Il dit ça, on voit très bien Gardeil quand il dit ça, le vieux Gardeil en bronze. Et quand il dit ça, c'est, on voit très bien ce qu'il veut dire. Alors il dit évidemment, j'opte pour la première, être obscur et profond. Vous avez toujours l'avantage, en étant obscur, que personne ne vous comprend, vous pouvez par le fait même dire que vous êtes profond. Tandis que si vous êtes clair, superficiel, on vous attaquera, c'est très superficiel. Je ne dis pas qu'Hamelin est superficiel, je ne dis pas que l'idéalisme français est superficiel, mais il est très psychologique, ordinairement. Tandis que l'idéalisme allemand reste Hegel, qui n'est pas psychologique, et qui est profond, c'est vrai. Mais c'est intéressant de regarder le néo-hegelianisme dans Hamelin. On pourrait regarder Hegel avant. On verrait que Hegel maintient la substantialité, mais le primat chez lui de l'intelligibilité, c'est la relation. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Comment progressivement, dans notre philosophie européenne, la relation a mangé la substance. C'est le petit dernier, le petit débile, qui a absorbé la substance, mais complètement. Et c'est plus que la relation. Dans le système de Hamelin, c'est la relation qui est tout. Donc dans le système, et c'est un système, comme du reste, hein, la pensée hegelienne, c'est très curieux, quand on met le relatif et la relation en premier, on se sauve par un système. Le système, c'est le tout. C'est la synthèse, c'est le tout. Alors, il faut chercher quel est le point de départ. Et le point de départ, c'est le relatif. C'est le relatif qui fait tout. Dans le système idéaliste d'Hamelin, pour qui le connaître est partie intégrante de l'être, l'élément premier n'est pas l'être, mais la relation. C'est l'être relatif. Vous voyez, quand vous voyez Merleau-Ponty qui dit l'être, c'est un réseau de relations. Il est le fils d'Hamelin. Il est très français. Et Hamelin est très français. C'est l'hégélien français, Hamelin. Alors, le matheux. Hamelin est un matheux. Alors, intéressant de voir comment, quand la relation devient dominante, c'est la métamathématique. Aristote, c'est la métaphysique. Alors, c'est la métamathématique. Si l'être mathématique est de fait l'être absolu, c'est la relation qui domine. Parce que les mathématiques, c'est la relation. C'est l'exaltation de la relation.